VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, l'ONG congolaise de défense des droits de l'homme, Fondation Bill Clinton pour la paix, FBCP, a dénoncé ce mercredi l'arrestation d'un opposant accusé d'avoir publié de faux résultats de la présidentielle du 30 décembre, alors que tout le pays attend l'annonce officielle du vainqueur. Selon la FBCP, Armand Lokeka Okito, avocat et candidat à la députation nationale pour le compte de la plateforme d'opposition Ensemble, a été arrêté lundi à son domicile et conduit dans les locaux des services spéciaux de la police de Kinshasa. L'intéressé est accusé d'avoir publié des faux résultats en faveur de Martin Fayulu, le candidat à la présidence de la coalition d'opposition Lamuka, précise la Fondation Bill Clinton pour la paix. Dans un communiqué, l'ONG réclame la libération immédiate du détenu ou, dans le cas contraire, qu'il soit traduit devant son juge naturel. Seule la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est habilitée à proclamer les résultats provisoires des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux du 30 décembre. Trois principaux candidats sont en lice pour succéder au président Joseph Kabila, à savoir l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari, le dauphin et candidat du pouvoir, et les deux opposants, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi. Élection RDC toujours, la CIMOCEL, la synergie de mission d'observation citoyenne des élections, fait état d'au moins 52 irrégularités majeures lors de la compilation des résultats des élections du 30 décembre. Les explications du président de la CIMOCEL, Bishop Abraham Djamba, au micro d'Edis Isango.
Certains des observateurs n'ont pas été autorisés à observer la compilation dans 5% des centres locaux de compilation des résultats. Il y a, par exemple, des centres où les plis sont arrivés ouverts. Il y a des cas où les PV n'ont pas été affichés à l'extérieur des centres locaux de compilation des résultats à la fin du travail. Il y a des cas de refus aux témoins de résigner les PV, des falsifications des résultats des PV dans 20 cas et 3 cas d'allégations de corruption, 3 cas de destruction méchante d'un des éléments du pli, c'est-à-dire des éléments qui doivent être évalués ou pris en compte dans la compilation des résultats.
Vous parlez des matériels sensibles qui sont en circulation dans votre rapport.
Il y a le matériel sensible comme la machine à voter, comme les bulletins. Nous ne nous expliquons pas que ce matériel qui est censé bénéficier plutôt d'une protection particulière de la part de la centrale électorale puisse se retrouver entre les mains des particuliers. Nous demandons à la CENI de s'expliquer sur cette situation et puis de prendre des mesures pour que les résultats qui proviendraient de l'utilisation de ce matériel ne puissent pas être introduits dans la compilation des résultats.
Justement, avec toutes ces irrégularités, quel impact ça peut avoir sur les résultats qui sortira de la compilation?
Non, je crois que ce n'est pas encore le moment de parler de l'impact, parce qu'il faut une étude plus approfondie. Nous avons des cas que nous avons jugés comme étant d'irrégularité majeure, c'est 52 cas, donc vous comprenez que sur l'échelle de 76 000 bureaux de vote de l'ensemble du pays, c'est vraiment localisé. Mais on peut encore s'interroger sur les cas où les témoins n'ont pas été acceptés de sur la compilation, les témoins, les observateurs. On peut s'interroger sur le fait de non-affichage des résultats après compilation. Je crois que le processus congolais est tel que plusieurs personnes, plusieurs parties prenantes, que ce soit les candidats, les partis politiques, les missions nationales d'observation, et même les électeurs eux-mêmes, se sont organisés pour surveiller les scrutins. Donc les PV et les fiches des résultats se retrouvent entre les mains de plusieurs personnes. Donc, il y a moyen de continuer toujours à s'assurer que ce qui va être publié est véritablement le résultat des urnes.
Bishop Abraham Djamba, président de la CIMOCEL à Kinshasa en RDC. Au Rwanda, le gouvernement est revenu sur sa décision de faire appel de l'acquittement de l'opposant Diane Rwigara en décembre, mettant de fait un terme aux poursuites judiciaires contre cette éminente personnalité qui ne ménage pas ses critiques contre le président Paul Kagame. Diane Rwigara et sa mère Adeline, jugées notamment pour incitation à l'insurrection, avaient été acquittées le 6 décembre à Kigali. Et le parquet, qui avait requis 22 ans de réclusion contre l'opposante, avait fait appel dans la foulée. Lors de l'acquittement en décembre, le tribunal avait estimé que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement ne constituaient pas une incitation à l'insurrection parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garantie par la Constitution rwandaise et les lois internationales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Soudan, des centaines de partisans du président soudanais Omar al-Béchir se sont rassemblés ce mercredi à Khartoum pour exprimer leur soutien au régime du chef de l'État, en proie à une forte contestation ces dernières semaines. Le rassemblement pro-Béchir intervient après que le président a accusé mardi ce qu'il a appelé des comploteurs d'avoir provoqué les violences constatées lors des manifestations antigouvernementales qui ont commencé le 19 décembre suite à la hausse des prix du pain. Au Nigeria, le gouvernement appelle les médias à la retenue dans la couverture du groupe djihadiste Boko Haram. L'armée nigériane a effectué une descente contre un journal accusé d'avoir divulgué des informations sensibles. Le point avec Bagassi Koura.
Les médias doivent trouver un juste équilibre entre la liberté de diffuser des informations et la sécurité nationale, a déclaré le ministre de l'Information, Lai Mohamed. Il a prévenu que les médias doivent faire preuve de retenue dans la couverture de l'insurrection. Des soldats et des agents des services de renseignement ont fait irruption dimanche dans le bureau du Daily Trust à Maïdougouri, Abuja et à Lagos. Ils ont saisi des ordinateurs et deux journalistes ont été arrêtés. Le quotidien avait publié un article en plus première page sur des plans militaires pour reprendre aux insurgés la ville de Baga sur les rives du lac Tchad. Cette ville a été temporairement prise par les djihadistes le 27 décembre. Les assaillants avaient mis en déroute en quelques heures quelques 500 soldats de la force multinationale mixte. Le porte-parole de l'armée, le général Sani Ousmane, a accusé le Daily Trust d'avoir divulgué des informations militaires classifiées qui ont donné aux islamistes une alerte précoce et ont saboté les opérations en mettant en danger la vie des troupes.
Actualité américaine maintenant, ici aux États-Unis, le président Donald Trump a tenté mardi de rallier les Américains à son projet de mur à la frontière avec le Mexique, mettant en avant ce qu'il a appelé une crise humanitaire, mais ne faisant aucune concession à ses adversaires démocrates. Lors d'une allocution solennelle de 9 minutes, Donald Trump s'est voulu rassembleur, renonçant à lancer une procédure d'urgence exceptionnelle qui lui aurait permis de contourner l'opposition démocrate. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Au 18e jour d'un shutdown qui paralyse partiellement les administrations fédérales, Donald Trump a repris les arguments qu'il assène depuis des semaines par tweet interposé, mais sur un ton qui se voulait plus présidentiel.
Tonight, I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis. At our southern border.
Ce soir, je vous parle car nous assistons à une crise humanitaire et sécuritaire grandissante à la frontière sud, a-t-il lancé depuis le bureau ovale. Le locataire de la Maison-Blanche a une nouvelle fois réclamé 5,7 milliards de dollars pour une barrière en acier plutôt qu'un mur en béton. Promesse emblématique de sa campagne, le mur est à ce jour resté lettre morte, les démocrates refusant de débloquer des fonds pour ce qu'ils qualifient de solution médiévale et l'exhortant une nouvelle fois à rouvrir le gouvernement.
President Trump must stop holding the American people hostage, must stop manufacturing a crisis.
Le président Trump doit cesser de prendre les Américains en otage, doit cesser de créer de toutes pièces une crise migratoire et humanitaire à la frontière, a lancé la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, en réponse au discours de M. Trump. Après 24 heures d'intense spéculation à Washington, M. Trump n'a finalement pas annoncé le recours au National Emergency Act, qui lui aurait permis de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire l'édifice. Cela dit, les négociations budgétaires sont au point mort. Depuis plus de deux semaines, quelques 800 000 fonctionnaires fédéraux sont contraints soit à rester chez eux, soit à travailler en attendant la fin du blocage pour être payés. Donald Trump va participer aujourd'hui à un déjeuner au Congrès avec les sénateurs républicains. Jeudi, il se rendra à la frontière sud pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de ce qu'il a appelé une crise de sécurité nationale.
Et pour terminer, la justice américaine semaine, la justice sud-africaine a refusé ce mercredi la remise en liberté sous caution de l'ex-ministre mozambicain Manuel Chang, appréhendé le 29 décembre en Afrique du Sud en vertu d'un mandat d'arrêt américain dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.